Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé ce jeudi à la 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État congolais a évoqué des questions touchant notamment à la sécurité et au bien-être social de son peuple. Parlant de la sécurité, il a réitéré sa demande de voir se constituer une coalition internationale contre la menace terroriste qui guette la sous-région de Dalak. Sur les volets sociaux, il a entre autres annoncé l'augmentation du budget alloué à l'éducation qui devra passer de 8 à 20%. Félix Tshisekedi est aussi favorable au maintien de la MONUSCO, mais il demande une reconfiguration de cette force. Comment analyser ce premier discours du chef de l'État congolais aux Nations Unies? C'est le thème de ce soir. Et nous avons dans cette émission professeur Jean-Claude Chilumba, il est député provincial de Kinshasa et cadre de l'UDPS, membre de la coalition CACH. Bonsoir professeur Jean-Claude Chilumba.
Bonsoir, plutôt député provincial du Kassai Central.
Merci pour la précision. Yves Kitumba, lui, il est au téléphone, il est cadre du MLC, il est aussi porte-parole de la coalition provinciale de la plateforme Lamuka Kinshasa. Bonsoir, monsieur Yves Kitumba.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capsule.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée de mandats adaptés à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle M23, déclaration de Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, dit haut de la tribune des Nations Unies. Le président congolais vient de prononcer son tout premier discours à l'ONU en marge de la 74e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Le thème de cette session se focalise sur les efforts que doivent fournir les nations pour éradiquer la pauvreté, promouvoir une éducation de qualité, agir en faveur du climat et de l'inclusion. Quelques grandes lignes de l'adresse du président Félix Tshisekedi avec Billy Ivan Lutumba.
Félix Tshisekedi tient à ce que la MONUSCO soit reconfigurée en concentrant davantage les efforts sur ses capacités d'intervention opérationnelle aux côtés des FRDC. Il soutient que cette volonté des autorités congolaises converge avec celle du secrétaire général des Nations Unies, avec comme finalité de voir le territoire congolais jouir de la paix, la sécurité et la stabilité. Parlant de la situation à l'est du pays, le président congolais relève les efforts consentis par les experts congolais soutenus par les partenaires en santé dans le cadre de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola, avec en toile de fond les prouesses du professeur Jean-Jacques Muyembe, celle de la découverte des deux molécules pour guérir d'Ebola. Félix Tshisekedi se félicite du progrès accompli dans la prise en compte du genre dans tous les secteurs. Il en fait pour preuve le taux de participation des femmes dans le gouvernement actuel qui est passé de 6% à 18%, une première dans l'histoire du pays, soutient-il. Le président congolais vantant les potentialités des ressources du sous-sol congolais, estimé à 70% des réserves mondiales des métaux stratégiques, offre l'exploitation de ces ressources au monde. Ceci, à condition d'un accompagnement à l'industrialisation, la création d'emplois, la formation et le développement de la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a terminé son adresse en soulignant la priorité de son action depuis son investiture, notamment celle d'offrir une perspective de dignité aux populations, lutter contre la précarité et l'exclusion.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba, Yves Kitumba. On va commencer avec vous. Vous êtes cadre du MLC et porte-parole de la coalition, de la coordination provinciale de la plateforme Lamuka à Kinshasa. Premier discours de Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, sur le plan formel, peut-on parler d'un discours symbolique dans ce sens que c'est le premier d'un président congolais issu de la première alternance pacifique en RDC?
Oui, c'est la tradition avec chaque année ou chaque assemblée générale des Nations Unies qui est des interventions notamment de la République démocratique du Congo. Mais je note dans ce discours quelques volets, notamment le volet où il parle du Congo, le volet où il parle du monde, le volet où il parle de son auto-évaluation, de son auto-satisfaction. Écoutez, lorsqu'il parle de la forêt de notre pays et que les potentialités que nous avons de regorger, d'absorber tous les gaz à effet de serre avec intérêt pour notre pays, ce qui est très important pour nous. Lorsqu'il parle de l'ouverture du monde, c'est important pour notre pays en tant que républicain. Mais nous notons quand même quelques points qui ne satisfait pas l'opinion et le Congolais. Notamment lorsqu'il parle de son état de satisfaction sur la gratuité de l'enseignement. Vous savez que cette gratuité est un programme très mal conçu. Aujourd'hui, vous observez des grèves par-ci, par-là. Vous observez également que ça pose problème au niveau des établissements à organisation déjà avec la participation des parents ou la contribution des parents. Lorsqu'il y avait la contribution des parents, un enseignant, par exemple, lorsque je prends le cas du collège de Botobé, le lycée Montemampico, un enseignant touchait entre 700 et 800 et 1000 dollars, et avec la gratuité, l'enseignant va baisser à 100 dollars jusqu'à 246 dollars, au-delà des frais de fonctionnement après 15 de 46 dollars par mois. Ça veut dire que le programme a été mal conçu. La preuve en est encore, lorsque l'État fait recours à une banque commerciale de la place, je cite, à une banque pour chercher un financement afin de couvrir cette charge en raison de 100 millions de dollars dans une banque commerciale. Cela voudrait dire que le programme a été mal conçu.
Yves Kitumba.
Oui.
Voilà, donc vous évoquez, vous considérez l'autosatisfaction, n'est-ce pas, du chef de l'État comme étant un des points négatifs dans ses discours, en évoquant notamment cette réforme importante, n'est-ce pas, de la gratuité de l'enseignement des bases. Mais il a aussi annoncé quand même une chose importante, c'est le fait qu'il va allouer désormais 20% du budget national à l'éducation. N'est-ce pas quelque chose qui peut rassurer?
Écoutez, entre le discours et la faisabilité, il y a un écart. Vous savez que M. Tshisekedi est habitué aux promesses. Pas très longtemps, il avait promis de déboulonner le système. Après, il dit qu'il luttait contre la corruption de ce qui a caractérisé ce système. Après, il dit qu'il sera épanoui. Nous sommes habitués à ces beaux discours. Mais nous voulons que les discours soient suivis de faits, soient suivis de réalisations. Vous savez, lorsqu'il parle de la santé, c'est bien bon de dire, voilà, l'accès à une couverture efficace de soutien et santé publique, mais la faisabilité, nous doutons, ce sont des promesses qui ne viendront probablement jamais, qui seront probablement réalisées. C'est ça notre problème. Et lorsqu'il parle des libertés, liberté d'opinion, pas de prisonnier de conscience, vous avez les cas les plus éloquents, avec l'arrestation de l'honorable Mike Mokieta, et vous avez également le cas de l'arrestation des militants de la Lucha. Vous avez le cas, par exemple, de la privation du passeport de M. Monidela. Tout ça rentre dans le cadre de la négativité de ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc voilà, pour nous, nous notons surtout le reste du pays, du monde, ça c'est très important. Il parle du commun en termes de forêt, mais lorsqu'il fait son auto-satisfaction, il dit, bon voilà, écoutez, au nom de la paix, l'alternance a été réussie. Bien sûr, cette alternance a été réussie sur fond de la tricherie électorale, vous le savez tous. Lorsqu'il parle de la stabilité et de la paix, vous savez, la situation qui se passe à l'est de notre pays, à l'instant, il n'y a pas plus tard 2-3 jours, où il y a eu des massacres à Djibou. Donc, nous voulons que les discours soient accompagnés de faits. Les discours soient accompagnés de la faisabilité. Et nous doutons fort, surtout lorsque M. Tshisekedi annonce de choses de manière improvisée, non préparée, mal conçue, quand pose problème. Nous avons des problèmes dans notre pays. Nous
alors, lorsque Yves Kitumba, c'est le discours d'un président de la République, lorsque vous dites que c'est mal préparé, mal conçu, vous basez sur quoi pour dire que c'est mal préparé, non, mal conçu?
Je ne parle pas de discours mal conçu, je parle de promesses. Parce que lorsqu'il annonce des promesses, lorsqu'il annonce des choses qu'il va réaliser, généralement, il n'est pas suivi de faits.
Est-ce que, Yves, Mais il y a un temps, n'est-ce pas, pour faire les discours, un autre temps, n'est-ce pas, pour réaliser. On ne sait pas, pendant qu'on fait des discours, directement réaliser ces discours-là. Est-ce qu'il ne faut pas, le disent certaines personnes, laisser, n'est-ce pas, l'État au chef de pouvoir réaliser ses promesses?
Je veux bien bénéficier du doute. Enfin, j'en suis conscient, je veux bien bénéficier du doute. Mais nous avons des exemples, des choses élémentaires. Je vous parle par exemple du cas du pasteur de Monébel. Il a promis, il n'a pas fait, il a promis de déboulonner les systèmes il n'y a pas très longtemps. Il a promis de lutter contre la corruption. Vous savez ce qui se passe à la présidence de la République avec la disparité des 15 millions de dollars et autres dossiers flagrants. Il a parlé, après il a changé pour dire qu'il ne va pas fuir. Donc nous avons une expérience de ce discours qui n'est pas suivi des faits. Généralement, il promet, et surtout lorsqu'il est à l'étranger du pays, lorsqu'il est à l'étranger, il promet, mais la réalisation, il y a un écart entre ses promesses, ses dires, et les réalisations sur le terrain. C'est ça notre problème.
Merci.
Je ne dis pas que le discours a été mal conçu, mais je parle des promesses qu'il donne.
Merci Yves Kitumba. Nous allons redonner la parole au professeur Jean-Claude Tshilumbay, député provincial du Kasaï Central et cadre de l'UDPS, membre de la coalition CASH. Quel sens vous donnez à ces premiers discours du président Félix Tshisekedi aux Nations Unies?
Merci beaucoup. Vous permettrez que je revienne un peu sur ce que Yves vient de dire avant que je ne passe à ça. Je voudrais ici souligner l'aspect stabilité et alternance Patrick Chéri. Moi, je ne suis plus dans ce débat. Je voudrais que l'on avance. Monsieur Yves sait, moi je suis un avocat, j'ai été avec eux à la Cour suprême de justice. La coalition CASH que moi j'ai soutenue, que j'ai défendue à la Cour, a été porteur de preuves de sa victoire, et parce que ce n'est pas nous qui devrions les prêter à la Mouka qui n'a pas préparé les élections. Je crois qu'il faut évoluer. Là, nous parlons des choses qui avancent. Et malheureusement, il les présente sous forme ironique au lieu de les apprécier avec leurs effets sur le terrain.
Qu'est-ce que vous appelez des avancées lorsqu'il évoque les cas du passeport de Monidela, il évoque les cas de l'arrestation, n'est-ce pas, du député provincial Mike Mukebayi, il parle d'une certaine expérience, il dit que les chefs a déclaré qu'il ne va pas fouiner dans les passés alors qu'on attendait à ce qu'il puisse combattre l'impunité. Il parle de cette question des 15 millions. Qu'est-ce que vous appelez avancer?
Le chef ne va pas fouiner dans le passé. Il a libéré la justice. Ce n'est plus une justice sous l'autorité ou une justice atteinte d'amok comme il a été de tout ce temps. Il a laissé les juges travailler librement. J'estime que ça, c'est le travail, il l'a dit lui-même, le travail des services spécialisés. J'entends là la justice aussi qui doit, si elle veut fouiner dans le passé, parce qu'elle qui a des moyens et surtout qui a la compétence de le faire. Il parle des grèves à travers la République en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi ils veulent, moi je ne comprends pas, que après autant d'années, c'est nous qui avons adopté cette constitution. Il faut que les Congolais aient en tête que le dispositif constitutionnel qui parle de l'article 17, je crois jusqu'à l'article 52, rentre dans un bloc de normes, d'ailleurs, au plan international, considéré comme intangible. Lorsque le Congo s'est engagé à respecter ces normes et les a consignées dans notre constitution en référence aux instruments internationaux que nous avons ratifiés et que nous sommes engagés à respecter, ils devaient le respecter. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a imposé cette constitution aux Congolais. Cette constitution, moi, je l'ai toujours considérée comme un octroi de vainqueur de San City, armes à main, comme ils s'étaient partagés le pouvoir. Ils ont imposé cette constitution au peuple congolais. Nous pensons qu'il faut la respecter. Et lorsqu'on commence à la respecter, je suis content de l'entendre dire les 245 dollars proposés ne vont pas compenser la perte des enseignants. Donc il fallait laisser les parents sous cette corvée. Mais partir de 35 dollars à 245 dollars en moins d'une année, ça ne peut que relever des miracles. Au chapitre de liberté, lorsqu'il parle de...
Mais tout cela est encore contenu dans des promesses, n'est-ce pas? Il n'y a encore rien de concret.
Ce n'est pas contenu dans les promesses. Le président, il vous a dit qu'il va appliquer cela et que le mois d'octobre avance. Nous allons apprécier par rapport aux dates précisées. Il parle de liberté. L'honorable Mike Mukebayi, je ne suis pas très, très compétent de dire ce qui s'est passé. Moi, je sais que... Il est sous le coup de plusieurs plaintes de personnes qui se disent victimes. Il faut s'adresser à la justice. Ce n'est pas une question de sûreté comme ça a été le cas dans le passé. On l'accuse de diffamation, d'injure publique et tout ça. Alors, pour revenir au discours du président de la République aux Nations Unies, moi j'ai vu là un homme qui apparaît un artiste de la diplomatie. Il s'est présenté un homme qui vient vendre son pays et qui, réellement comme il l'avait promis, il veut faire de la diplomatie une scène qui permettrait d'entourer le Congo de relations qui protègent son indépendance. Et je crois que c'est déjà une bonne chose. La diplomatie, c'est la sauvegarde de la paix. Il est allé la présenter devant l'Assemblée générale des Nations Unies, cette grande tribune. Mais ce que je retiens dans le Congo, c'est un grand Congo qui revient. Un Congo qui ne vient plus en pleurnichard devant la communauté internationale. C'est un Congo qui vient avec ses moyens à main. Un Congo qui propose sa part de contribution aux défis de l'humanité et aux grands problèmes politiques qui traversent notre monde. La maladie, c'est ce qu'elle dit, l'a abordé avec responsabilité, la famine, le terrorisme, le surarmement, l'impasse en ce qui concerne l'immigration anarchique. Tout ça, c'est un Congo qui revient, qui ne vient plus vers les autres que pour demander. C'est un Félix Tshisekedi qui vient en homme d'État et qui se présente cette fois-là avec l'atout majeur que nous avons manqué.
Et qui fait des propositions.
Qui fait des propositions avec l'atout majeur que le Congo a manqué de tout ce temps, la personnalité de l'homme d'État.
Il y a dans ces discours des annonces importantes, hein, notamment le fait d'allouer 20% des budgets nationaux à l'éducation. Et l'autre annonce, c'est le fait que la RDC s'ouvre au monde avec ses nombreuses réserves mondiales des minerais stratégiques. Mais en contrepartie, la RDC attend que ses partenaires viennent, n'est-ce pas, créer des industries, créer des emplois en vue du développement du pays. Dans les faits, dans la faisabilité, comment les choses pourraient se passer?
Là encore, vous voyez que c'est un Congo de Tshisekedi qui présente pour la première fois ses potentialités comme une carte qui peut se jouer autour d'une table et on peut gager quelque chose parce que nous sommes, ce n'est plus une quête qui va se faire de la manière la plus anarchique. Dans la faisabilité, vous savez que le point qui nous a frappé de tout ce temps, c'était le Congo n'était pas viable. Félix Tshisekedi a ouvert la porte aux investisseurs. Ouvrir la porte aux investisseurs, c'est marquer les points. Vous avez vu comment souffrait le point, par exemple, de libéralisation de l'assurance. Il l'a fait dans peu de mois, alors que ces mesures étaient prises de très longue date. C'est pour permettre aux investisseurs de venir au pays. Lorsqu'il libère l'espace politique, il libéralise le marché économique. Lorsqu'il accompagne les principes qu'il soutient, d'ailleurs, il l'a promis là du haut de la tribune, qu'il sera procédé à la création d'une agence de lutte contre la corruption dans les jours qui viennent. C'est un Tshisekedi qui a refusé d'avoir un conseil spécial en matière de corruption qui lui serait assujetti, qui a accepté la logique d'une agence indépendante pour que lui aussi soit dans son viseur. C'est un Tshisekedi déterminé à voir les investisseurs venir. Donc la faisabilité, je crois qu'elle ne poserait pas problème. Il est question là qu'on s'engage. Parce que là, je vois, c'est un Congo qui quitte le fond en train de remonter, alors qu'il y a quelques mois, c'était un sens inverse.
Alors, il a rappelé ce qui a toujours été le souhait de beaucoup de dirigeants africains, celui de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de réserver un siège permanent à l'Afrique, et une demande à laquelle les grandes puissances n'ont jamais voulu accéder. Et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est une demande qui pourrait être prise en compte?
Oui, c'est un Congo dans sa peau de la vocation africaine dans l'expression du manifeste de l'Ancelé. C'est un Congo qui revient comme porte-parole de l'Afrique parce que nous n'avions pas raison d'occuper la queue. Et là, c'est un Tshisekedi encore qui affirme sa personnalité comme homme d'État. Moi, j'estime qu'il n'y avait que le Congo pour plaider cette cause parce qu'il est le seul à posséder des potentialités pour mériter cette place au Conseil de sécurité. Et je crois que tout a bien marché pour que ça nous attende, parce que si ce débat avait été clos, je crois que nous n'aurions pas participé lorsque nous étions dans ce club de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui revient et tout le monde le consent.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Et comment vous appréciez, n'est-ce pas, les discours que le chef de l'État a prononcé aujourd'hui aux Nations Unies?
En termes de contenu, de tonalité, de forme, c'est un très très grand discours. Évidemment, si vous écoutez notre ami de la Mouka, vous allez sentir qu'il y a toujours un fossé entre le discours et les actes. Mais en fait, il est aujourd'hui très tôt pour pouvoir critiquer les actes du président Félix, tant il est vrai qu'on est encore là, sa première année, et encore que cette année, il n'a pas franchi. Donc, c'est autour de 7 mois de mandat. Et il y a beaucoup de choses qu'il a annoncées, mais il faudra encore lui donner suffisamment de temps pour pouvoir réaliser la plupart des choses qu'il a dites. Mais avant de parler du discours du chef de l'État, il serait de mon point de vue mieux de rappeler le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui, il faut le dire, avait exprimé des craintes de voir une grande fracture à travers le monde, et pour lui, le monde risquait de se scinder en deux, entre les deux plus grandes économies du monde. Et là, il faisait allusion à la Chine et aux États-Unis, chacun avec sa monnaie, ses règles financières, ses capacités en intelligence artificielle, sa propre stratégie géopolitique, sa propre stratégie militaire. Et donc, le risque était grand, et avec cette facilité de recruter, notamment en Afrique, et donc des pays assez fragiles comme la RDC, allaient donc tomber dans ce piège d'un monde qui allait se scinder en deux. Et donc,
Et là, avec les risques de devenir au bipolarisme de l'époque, avec l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre côté.
Exactement. Mais il a aussi insisté sur le fait qu'il y a des événements positifs en 2018. Et là, il a cité en particulier l'élection en RDC qui a débouché sur, évidemment, la passation civilisée du pouvoir. Alors, c'est dans ce contexte précis que le discours du président Félix Tshisekedi intervient. Étant donné que le secrétaire général a cité comme un fait positif de l'année 2018 cette élection qui a vu évidemment le président Félix être, si vous voulez, proclamé élu. Et de ce point de vue, le président Félix, son discours était très attendu, étant donné qu'il est le résultat d'un fait qualifié de positif par le secrétaire général des Nations Unies. Et quand il intervient...
Alors, parce que ce discours, comme vous le dites, était très attendu, est-ce que vous pensez qu'il sera pris en compte?
Alors, il a bien travaillé son discours. Il faut d'abord reconnaître que la tonalité était une tonalité, à mon avis, très douce, de concept bien choisi. Il a toujours eu, donc, donné cette imagerie d'un personnage conciliant. Et en termes de discours, ça n'a pas été un discours agressif. Par contre, vous sentez qu'il y avait une entendue à la fois vers les pays de la région quand il parle de créer cette dynamique contre le groupe armé, notamment Adef Nalou, qualifié de terroriste, et donc par rapport à l'avancée de ce terrorisme qui risquait d'impacter les pays voisins. Donc il faut une dynamique régionale. Il y a une main tendue, mais vous avez aussi une main tendue notamment vis-à-vis de l'extérieur, parce que là, il fait voir que si l'extérieur, notamment les puissances occidentales, laisse cette dynamique terroriste prendre des dimensions, eh bien, elle risque à un moment donné d'être incontrôlable. Et donc, vous avez là une diplomatie de la main tendue, qui, de mon point de vue, a été suffisamment apprécié de l'autre côté.
Alors, par rapport à l'autosatisfaction qu'évoque Yves Kitumba, il dit que c'est un aspect négatif de ses discours.
Bon, en fait, je ne voudrais pas, moi, parler de l'autosatisfaction ici. Quand on fait un discours à ce niveau-là, il faudra donner une très bonne image de son pays, mais présenter aussi les perspectives les meilleures possibles. Et donc, ce n'était pas le lieu où il fallait évoquer des situations apocalyptiques et dangereuses. Mais Yves peut avoir raison, parce que il faudra évidemment juger le chef de l'État par ses actes. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudra le juger par les actes. Il faudra que le chef de l'État, tout ce qu'il a annoncé, toutes les promesses faites, il faudra qu'il soit en mesure de démontrer, eh bien, qu'il a les capacités de réaliser les promesses faites.
Réserver un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi, à votre avis, les grandes puissances n'ont jamais voulu accéder à cette demande?
Bien, c'est une question, il n'est pas le premier à poser cette question. D'autres pays africains l'ont déjà posé plusieurs fois. C'est vrai que ce n'est pas une question facile à traiter. Déjà, la remettre aujourd'hui sur la scène, c'est recomposer pratiquement, revoir la configuration des Nations Unies. Mais la question que moi je me pose, c'est celle de savoir, en fait, en ce moment précis, si le Conseil, si cette place du Conseil de sécurité devait être accordée à l'Afrique, la RDC, dans sa situation actuelle, d'un état quelque peu déséquilibré par les conflits et les différents problèmes qu'il connaît, aura difficile à prétendre à cette place. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des puissances régionales qui prétendent faire cette demande et qui en ont le moyen, parce que la RDC vient de conflits armés qui l'ont beaucoup affaibli. Mais dans son discours...
Et donc le mérite de cette demande, c'est que la RDC plaiderait, n'est-ce pas, pour un autre pays africain?
Oui, on parlait plus de l'Afrique du Sud, on parlait à un moment donné du Nigeria, mais aussi de l'Égypte. Et donc, vous avez là, pour moi, ce ne serait peut-être pas le moment de demander cette... Parce que si on la demande, ce serait bien pour la RDC, mais là... La RDC s'est beaucoup affaiblie, voilà. Et donc du coup, elle ne pourra pas prétendre facilement obtenir cette place.
Merci.
Par contre, le mérite d'avoir posé le problème, il est là. Ce que je voulais dire, c'est que au plan sécuritaire, parce qu'il y a eu, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais... oui, il y a eu un certain nombre de choses qu'il a annoncées au plan diplomatique et au plan sécuritaire. Donc vous voyez là, par exemple... Il sollicite l'appui de la communauté internationale pour l'élimination de groupes armés, notamment la SADC.
Cette coalition internationale.
Voilà, il revient sur la question de la MONUSCO, mais il y a là une question qu'il faut se poser.
On va relever ça dans la deuxième partie. Yves Kitumba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Kananga au Kasai central.
Paul Kapemba, depuis Kananga, Kasai central. C'est un discours trop pertinent, car tout ce qu'il a évoqué se trouve encore sur ses promesses, et non sur ce qu'il a déjà fait. Nous attendons la réalisation et non nous limiter à ses discours politiques.
Yves Kitumba ?
Je pense que l'éditeur a tout à fait rejoint un autre point de vue, c'est-à-dire nous attendons plus de réalisations. Ouais, je suis d'accord qu'il n'est pas le temps de la réalisation, nous partons de l'expérience, hein, sur les petites choses, les petites promesses qui devaient normalement être déjà faites, parce que vous savez, lorsqu'il évoque des grands programmes sur le secteur social, le secteur de l'industrialisation, ça demande du temps, ça demande également le moyen. Hein. Le moyen, pour que le partenaire nous prenne au sérieux, il faut qu'on ait une gouvernance tout à fait saine, où il y a la bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, la corruption qui est érigée en mode de gestion, une corruption institutionnalisée, ne permet pas le partenaire de nous prendre au sérieux. Et lorsque je reviens un peu en arrière sur les libertés, j'ai oublié de dire que Moïse Katoumbi également a été empêché d'atterrir pour faire son safari. Également, je notais encore un point que j'estime négatif lorsque le président, M. Tshisekedi, parle de sanctions. En réalité, il voulait parler de ses alliés qui sont sanctionnés, parce que vous savez que ses alliés sont à la base de tout le monde qui range notre pays, sont à la base de la situation actuelle, du chaos actuel, et il assimile avec le Zimbabwe. En réalité, il a peur d'avoir des critiques, il assimile le Zimbabwe pour que, enfin, ses partenaires en bénéficie de ce qu'il demande. Bref, nous voulons qu'il y ait la concrétisation. C'est notre pays. Ne pensez pas que, comme nous sommes dans l'opposition, nous sommes contre notre pays. Non. Pour notre pays, nous sommes d'accord sur le point essentiel des temps qui touche la vie de notre nation, la vie, l'amélioration de conditions de vie de notre population, le développement de notre pays, ce sont de choses importantes que nous devons nous tous nous a présenté, mettre la main pour que ça évolue. Mais le problème de M. Tshisekedi, c'est l'écart entre les promesses et les réalisations. Vous pouvez dire qu'on ne peut pas évaluer, mais la volonté politique ou la volonté qui a caractérisé le combat politique de l'UDPS de son père dont il a hérité, et ce qu'il fait sur le terrain, il y a vraiment un écart. Deuxième élément, c'est la coalition dont il a noué avec ses partenaires. C'est une coalition qui n'est pas prometteuse du bonheur du peuple congolais. Parce que ceux-là qui ont échoué pendant plus de 18 ans, ils ne lui faciliteront pas la tâche de réussir ce mandat.
Yves Kitumba ?
Donc,
Oui, mais comme le disent beaucoup d'experts, il faut accorder les bénéfices des doutes au président qui vient de commencer. Il faut le laisser, n'est-ce pas, le temps de réaliser ces promesses-là.
Non, vous n'avez pas empêché de jouer notre rôle en tant qu'opposant. Puisque dans une opposition, c'est au-delà de tirer l'attention du pouvoir, c'est également contribuer avec nos critiques pour que la gestion s'améliore. Comprenez, lorsque vous me dites de laisser le temps, ça veut dire M. Tshisekedi va dormir, va se lever, il ne pourra pas travailler, va foutre que on ne va pas le critiquer.
Yves, oui. Alors vous ne trouvez rien de bon, rien de positif dans ce discours qui a été prononcé aujourd'hui?
J'ai énuméré le point dont il a parlé du Congo, le cas de la MONUSCO, il a parlé de l'ouverture, il a parlé de l'industrialisation, il a parlé de l'immigration. Ça, c'est le point positif, le point essentiel et important pour notre pays. Je les ai énumérés au début de mon intervention. Je parle plus de son autosatisfaction.
Et par rapport à la MONUSCO, hein, il est favorable, n'est-ce pas, au maintien de la MONUSCO, mais il voudrait qu'on puisse réformer un peu, reconfigurer, n'est-ce pas, cette force.
Je pense que c'est le point de vue de tout Congolais, parce que nous ne pouvons pas admettre qu'une mission si importante et coûteuse pendant plus de 10 ans dans notre pays ou 20 ans dans notre pays, qu'il n'y a pas d'amélioration à l'Est. Tous les jours, il y a des cas de tuerie à l'Est, tous les jours, il y a des cas d'insécurité à l'Est. C'est tout à fait normal qu'il se soit reconfiguré, que ce soit retraité.
Merci.
Pour qu'on ait au moins une mission efficace qui va protéger la population. Donc, c'est essentiel, c'est de protéger la population, de lutter contre le terrorisme. Et apparemment, la MONUSCO, avec le nombre et le moyen dont on dispose, n'arrive pas à sa mission.
Merci.
Ouais, en attendant que nous soyons équipés, la MONUSCO peut continuer néanmoins de faire essentiellement son travail.
Merci Yves Kitumba. Professeur Tshilumbaï, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Goma, honorez-vous.
Maître Serge Mousséhanio de Goma, honorez-vous. Qui est de demander une coalition internationale contre la menace terroriste qui guette la sous-région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi aurait plutôt pensé à la redynamisation de FARDC, dont semble-t-il l'efficacité est en baisse au regard de la persistante et douloureuse guerre contre les EDF Nalou qui endeuillent au jour le jour la région de Beni. Sinon, quant au volet éducation, à quoi vont se vanter de l'augmentation du budget alloué à l'éducation, qui semble-t-il ne pourra même pas garantir la gratuité tant prônée vu les défis majeurs auxquels est confronté le système éducatif congolais, entre autres la non-mécanisation de certains enseignants, mais aussi le manque d'infrastructures pour d'autres institutions d'enseignement secondaire.
Professeur Tshilumbaï.
Moi, je comprends ça de cette façon-là. D'abord, la question de la sécurité, il n'y a aucun Congolais qui peut douter de ce que le président fournit d'énormes efforts pour y parvenir, notamment dans l'est du pays. Moi, j'assiste chaque jour ici à des informations positives, du genre de groupes armés qui se rendent, de bandits qui déposent des armes sur la paix du président de la République. Mais le président, lorsqu'on dit qu'il est resté dans les énoncés, dans les annonces, qu'il n'y a pas de concret, il ne concrétise pas, c'est cette armée qui était en désespoir. L'armée ici était dans la condition qui ne pouvait pas lui permettre de faire face à ces défis-là. Aujourd'hui, je ne dis pas que le président a résolu le problème de l'armée, mais il a commencé à poser des principes qui tendront à résoudre le problème de l'armée. Moi, j'ai visité le Kanchatch, je vois des logements des militaires en train d'être construits là-bas. Qui pouvait s'imaginer que les militaires que nous avons connus, dans la condition qui a été la leur, puissent être à mesure de faire face à cette réalité-là. J'estime que cette question est en train d'être résolue. Le président a promis d'améliorer les conditions et il a promis d'améliorer la qualité de leur santé et de leur vie, notamment la qualité de leur famille, de permettre à ce que les enfants des militaires accèdent à l'éducation. C'est déjà quelque chose. Mais pour revenir un peu à ce discours, moi j'ai vu un président de la République dans son costume d'un chef d'État qui a conjugué la crise du Congo au passé, parce qu'il a cette conviction que le Congo va sortir de cette auberge. J'ai vu que le pays, la RDC, a été pour la première fois présenté dans ses qualités positives devant la communauté internationale. Et ces qualités positives ne m'étonnent pas lorsque le président peut rêver un jour prétendre associer le Conseil de sécurité, parce que dans le passé, l'histoire même du Conseil de sécurité s'est construite de cette manière-là. La France était un pays vaincu lorsqu'elle a accédé à un siège, elle était occupée. C'est grâce à la personnalité de l'homme d'État, le général de Gaulle, que la France a bénéficié de ce siège. tous ces pays africains qu'on nous présente comme des probables preneurs de ce siège ne sont pas des pays aussi stables qu'on l'imagine. Le Nigeria a encore ses problèmes de Boko Haram, qui sont des problèmes beaucoup plus graves que les nôtres ici. L'Égypte a son problème de démocratie, des contestations internes, ce n'est pas un pays aussi stable qu'on l'imagine. L'Afrique du Sud, avec ce qui vient de se passer ici. Nous sommes au même point.
Si et donc la RDC, c'est ce que vous voulez dire, la RDC est à même aujourd'hui, cette réforme est effective, la RDC peut
elle est compétitive parce que ce qu'elle a, elle, de pas ce que les autres détiennent, c'est ce soft power qui permet à la RDC d'être au centre du monde où tout le monde vient se ressourcer. Je crois que personne ne serait désintéressé par rapport à ça.
Alors, lorsqu'on parle d'enseignement... Parmi les annonces importantes, notamment l'enseignement, il a aussi évoqué, il a rappelé sa détermination de faire progresser les chantiers de la couverture de santé universelle. Une autre réforme très importante qui implique beaucoup de moyens, qui implique un budget conséquent. Vous pensez que le pays est en mesure aujourd'hui de relever ces défis?
Mais le président l'a dit avec des chiffres. Tout le monde s'accorde de dire que le pays ici produisait de l'argent, mais 90% du revenu national entrait dans les poches de ceux qui dirigeaient, ou dans la corruption, dans les poches des individus. Lorsque le président vous dit que l'un de ses défis majeurs, c'est de lutter contre la corruption, d'endiguer la corruption, c'est dire que nous avons les capacités de quintupler, ou même d'aller plus au-delà par rapport à notre budget, d'avoir des moyens pour les allouer à tous ces défis ici. Lorsqu'on dit de l'enseignement que c'est des promesses, moi je ne vois pas que des promesses, je vois dans des quartiers des parents qui jubilent, qui ont bénéficié de ça. Je vois des enseignants, parce qu'il ne faut pas aussi confondre cette question, elle n'est pas une question à globaliser. On ne va pas prendre l'école Boboto et la confondre à cet enseignant qui n'avait que 300 francs, 500 francs par mois avec les contributions des parents dans mon village à Kampondila, dans le Kassa Central. Aujourd'hui, il part de 500 francs par mois, de 2000 francs par mois, à 245 $. Et c'est ces enseignants-là, de l'intérieur, de milliers d'euros qui sont nombreux. C'est positif, c'est à mettre dans l'avantage de ce que le président de la République est en train de faire. Il y a des discussions avec ces écoles qui prétendent avoir réalisé des manques à gagner. Je crois que c'est des points qui vont être solutionnés, mais ce qu'il faut dans une société normale, c'est de commencer quelque chose.
La question sur la MONUSCO.
La question sur la MONUSCO, vous avez suivi qu'elle a le consensus de tout le monde, même celui qui vient de parler. Même notre ami de la Mouka, M. Katumba, affirme
Kitumba,
avec la MONUSCO reste. Ce que le président a fait, c'est des recommandations. La MONUSCO ne doit plus être cette mission imposée qui vient d'ailleurs et qui est définie selon la volonté des Nations Unies, mais il faut qu'elle se discute désormais avec le Congo, parce que c'est le Congo qui connaît les priorités de sa question de sécurité. C'est comme ça que le président de la République recommande la reconfiguration de la MONUSCO pour qu'elle soit en position d'accompagner les FARDC et non de venir trouver une solution au problème du Congo.
Merci.
Notre armée est en train d'être aussi perfectionnée. La MONUSCO viendrait accompagner la RDC. Là, même donner le modèle du M23, moi je crois qu'il n'y a pas à craindre là-dessus. Le président de la République.
De la brigade d'intervention qui avait défait les M23.
Voilà.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Vous allez réagir à cette réaction qui vient de Kinshasa.
Moi, c'est Raymond Diongo depuis la ville et province de Kinshasa. Je félicite la déclaration de notre président, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse pas de réitérer son explication pour mettre fin aux actes terroristes de grand large. Chaque fois qu'il prend la parole dans les assemblées et conférences, mais aussi sa détermination pour la gratuité de l'enseignement de base. La grande question reste de savoir, est-ce que ses homologues présidents des pays de Grand Lac lui prêtent réellement oreille et ont-ils vraiment le souci de mettre fin à ce mouvement qui ne fait qu'endeuiller la population du Grand Lac?
Vous pensez répéter Kabamba?
Ah oui, je crois qu'il pose une question pertinente. Le président Félix Tshisekedi, je crois qu'il a joué un rôle important dans la résolution de conflits dans la région. Vous savez qu'il a été médiateur dans le conflit qui oppose le Rwanda et l'Ouganda, de sorte qu'il a facilité la signature d'un mémorandum de bonnes intentions entre les deux chefs de l'État. Et c'est vrai que l'annonce sur la gratuité de l'enseignement suscite aujourd'hui beaucoup de réactions au niveau de l'opinion publique. On va voir un peu, on va observer un tout petit peu comment les choses vont se passer. La mesure en soi.
Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite à Maison, comme on le disent certains experts?
On attendait qu'il y ait suffisamment d'études, réalisé.
Et la mobilisation des ressources également.
Exactement, et qu'il y ait suffisamment d'options sur la table, voir quelle est la première phase, quelle est la deuxième, après la deuxième, quelle est la troisième. Mais probablement qu'il a eu un certain nombre de données qui l'ont déterminé à prendre la décision, parce qu'un politique ne décide pas de manière tout à fait gratuite. Mais nous allons observer, évidemment, une gratuité à double vitesse. Dans les écoles élitistes où les enseignants touchaient des salaires extrêmement élevés, il y aura donc des mécontentements. Par contre, dans les milieux ruraux où les enseignants touchaient des montants assez dérisoires, eh bien, il y aura certainement une grande réjouissance. Alors, comment arbitrer entre les écoles élitistes, notamment des milieux urbains habitués à recevoir des minervales assez élevés par rapport à ces écoles des milieux ruraux? C'est évidemment là toute la question.
Voilà, vous avez suivi l'auditeur et qui a parlé du fait que le chef d'État a fait sa part, n'est-ce pas? Il a fait son discours, mais il appartient maintenant aux autres de faire la leur, donc faire leur part, notamment ses amis, ses homologues africains. Et c'est par rapport à la situation d'insécurité, n'est-ce pas, qui caractérise l'Est de la RDC. Et vous pensez qu'ils ont la même vision que lui?
D'abord, il y a une rupture d'approche sur cette question de la MONUSCO. L'ancien chef de l'État, carrément, il était clair, il faut que la MONUSCO plie bagage et parte. Mais le nouveau chef de l'État, en reconnaissant l'importance de la MONUSCO, il y a aussi là une reconnaissance, en fait, du fait que le FARDC connaisse encore un déficit logistique. Et d'ailleurs, chaque fois qu'ils attaquent, ils ont besoin d'un appui aérien. Voilà. Et donc, du coup, étant donné ces déficits, la MONUSCO est encore importante. Elle pourra aider d'une manière ou d'une autre les FARDC à pouvoir mettre fin aux forces négatives. Et cette reconnaissance, de mon point de vue, elle n'est pas mauvaise, hein. Et c'est que nous avons des faiblesses, il faut le reconnaître, et il faut aussi admettre le fait que la communauté internationale peut nous aider. Mais il faut dire qu'il ne reconnaît pas seulement que cela est important aujourd'hui, il a commencé par reconnaître qu'historiquement, l'ONU nous a aidés dans beaucoup d'opérations militaires, notamment vers les années 60. Et donc, il commence par reconnaître ce qui a été fait par le passé, avant de déboucher sur la reconnaissance de l'importance de la MONUSCO aujourd'hui.
Merci Yves Kitumba. Nous allons conclure. Quelles pourraient être, à votre avis, les retombées de ces discours sur le plan national et sur le plan africain?
En tant que républicain, l'image de notre pays, ce qui est très important, est que le Congo est toujours considéré sur le chic international. Et lorsque M. Tshisekedi parle au nom de la République, c'est une fierté de la République démocratique du Congo. C'est important pour nous. Mais en ce qui concerne les retombées, nous attendons de lui de prendre des réformes courageuses, surtout sur le plan politique notamment. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la contestation elle est très grande et persiste. Il faut qu'on arrête ces cycles pour respecter les préambules de notre Constitution, c'est-à-dire de prendre son courage, de faire la réforme de la chaîne du processus électoral, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle, le Conseil national des droits de l'homme et de l'audiovisuel également.
Merci.
Nous voulons des réformes pour que désormais les pouvoirs soient issus de la légitimité, soient issus sur un fond de la légitimité, ces pouvoirs issus du peuple et non des négociations.
Merci, professeur Jean-Claude Tulumbay. Les retombées de ces discours sur le plan national et africain.
C'est le retour du Congo sur la scène internationale. C'est aussi l'idée que ça donne aux Congolais qu'il est redevenu un citoyen du monde et que désormais il est représenté. Je voulais, pour conclure, revenir un tout petit peu sur la question de sanctions. Le président de la République n'est plus le président des DP, c'est le président des Congolais. Il a l'obligation de la protection diplomatique. Tous ces Congolais qui ont des ennuis avec l'étranger doivent en bénéficier.
Merci, professeur Félicien Kamamba, votre conclusion.
On n'a pas dit beaucoup de choses sur le changement climatique. Je crois que le chef de l'État a profité du discrédit actuel du chef de l'État brésilien qui semble s'opposer à la lutte contre la déforestation pour marteler et marquer le point, de sorte à pouvoir obtenir les financements qui par le passé étaient destinés au Brésil. Eh bien, il dit que la RDC a besoin de ces financements pour la conservation de ses forêts.
Merci, merci à William Lingamba qui était à la technique, à Kéline Kouté, Dona Madimba qui ont réalisé l'émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guimaté, et bon suite de programme sur Radio Capi.